Bien ton mix très progressif, bon house, limite techno à la fin. Ouais. C'était chouette, dansant, bien musical, avec des voix.
Eh ben super, merci, ça fait toujours plaisir.
Tu peux nous parler un peu de ce que tu as passé ?
Oh, j'étais plus style house, ouais, pour moi. Après, avec plein de tendances, j'aime bien mélanger un peu les styles.
Là, c'était plutôt de la house actuelle ou t'as pris plutôt dans les vieux des années début 2000, fin 90
hein. C'est possible qu'il y ait eu pas mal de mélanges, ouais. J'étais en week-end, là, j'ai fait un truc en vite fait pour ce lundi. Donc, il se peut qu'il y ait pas mal de choses mélangées. Voilà. Et pour les dates futures, on pourra nous retrouver au Moule à Gaufres. Super lieu au mois de juillet.
Le 12, non ?
Le 12 juillet, ouais, exactement, c'est ça. Et après, à Saint-Nid-de-l'Hôtel, le 22 juin, ça va être super sympa, c'est organisé par la ville, il y a plein d'animations, concerts et plus mix à partir de 23h.
Et d'ailleurs, pour le Saint-Disque, je sais pas si tu seras, toi, à Montargis le 28, du coup à Musicaire
Non, okay. Non, j'y suis pas là.
Donc voilà, bah, pour les autres DJ du Saint-Disque, il y aura aussi
Musicaire, un gros truc.
Musicaire, et puis d'autres plans, j'imagine. Pouf, ça n'arrête pas.
Tant mieux.
Oui. Bravo le Saint-Disque.
Bravo le Saint-Disque.
Les prochaines dates, bien entendu, l'Interplateau de Grand Piano Festival au Campo Santo.
On va en reparler dans quelques minutes, peut-être.
Yeah, c'était la transition.
Bravo.
Radio Campus Orléans. 88.3. Que se passe-t-il ici au juste ? Poser des questions à des personnes qui écrivent des livres de toutes les disciplines sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du fictionnaire. Le fictionnaire est le démocrate de la fiction. Des interviews longues de créateurs sur support écrit dans les disciplines des sciences humaines, de Pierre Guyotat à Bruno Latour. Le fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur, mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du fictionnaire. Bonsoir Karl. Ce soir, deux manières d'envisager les questions écologiques. Tout d'abord par l'histoire, cette discipline qui, au premier abord, s'est montrée peut-être frileuse, timorée, timide sur ces questions de faire l'histoire d'une bonne écologie correcte afin d'envisager les bons concepts qui pourraient nous être utiles actuellement face à la catastrophe bioclimatique. Et c'est le cas avec Jean-Baptiste Fressoz, très grand historien. Jean-Baptiste Fressoz, d'abord, on se souvient bien de l'événement Anthropocène, son titre majeur paru avec l'autre historien majeur également, Christophe Bonneuil. Et puis, on pense aussi à l'Apocalypse joyeuse et aussi les Révoltes du ciel avec Fabien Locher. Il est ce soir interviewé pour son nouveau livre paru en janvier au Seuil dans la collection Écocène, qui remplace la collection Anthropocène. En fait, la collection Anthropocène a changé de titre et s'appelle maintenant Écocène. Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie. Jean-Baptiste Fressoz, ça sera en première partie de l'émission, deuxième partie de l'émission, et donc deuxième manière d'envisager les questions écologiques, celle des cartes. Comment faire des cartes ? C'était tout l'enjeu de ce beau livre qui est un manuel de cartographie potentielle qui était paru il y a plusieurs années aux éditions B42, qui s'appelle Terra Forma, coécrit par Frédéric Aïtouati, Axel Grégoire et Alexandra Arène, qui sera interrogée ce soir pour nous parler de comment fait-on une carte à l'âge, à l'ère, au moment de l'Anthropocène afin de proposer un retournement conceptuel de l'envisagement de la Terre, de la planète et de nos territoires. Voici le programme, mais retour localisé, retour sur Terre et sur Orléans avec ce merveilleux, ce sublime festival qui s'appelle Grand Piano Festival au Campo Santo. J'en ai déjà la chair de poule. Et c'est pas parce que je vais m'occuper avec d'autres DJ du Saint-Dix de l'Interplateau. Ah, c'est vrai, il y a peut-être une implication personnelle. Mais il n'y a rien de tel que l'implication personnelle. C'est comme ça que marchent nos questions écologiques et aussi nos questions musicales.
Parfait. Eh ben dans ce cas, servons la soupe pour le Grand Piano Festival, effectivement. Oublions la couverture d'Orléans Mag et vive la musique. Le programme de cette année est bien pour les chants, effectivement. Ce soir, d'ailleurs, on va tranquillement passer trois artistes. Bon, c'est sûr que ça sera peut-être moins brutiste que d'habitude, hein, mais il n'y aura pas trop de chants. Vous allez voir des propositions musicales un petit peu marrantes. Il y a Thomas Senko notamment qui va venir au Grand Piano Festival tout seul à la salle de l'Institut, mais là on va s'écouter un morceau avec une percussionniste qui est plutôt une joueuse de xylophone, de vibraphone, mais bon, c'est une percussionniste. Elle s'appelle Vasilena Serafimova, elle est bulgare et ils ont fait un album tous les deux qui s'appelle Back Mirror, donc Back, hein, le compositeur, hein.
Ah, très bien. Ah, comme Bach.
Tout à fait.
C'est H à la fin.
Voilà.
Et pas CK.
C'est ça. Et le morceau s'appelle Vortex. On écoute ça. Et puis après, c'est Jean-Baptiste.
Et lui, il passera le jeudi soir, peut-être à la
Je crois. Alors, c'est bête. Je n'ai pas ouvert le programme.
Mais souvent à la salle de l'Institut.
Renseignez-vous,
c'est
en fait,
soir,
parce que le programme, au-delà du Campo Santo, fourmille de petits concerts dans plein d'endroits. Ouais. Il y a des pianos dans plein d'endroits de la ville. Il faut vraiment. Voilà, c'est une expérience. Hein. Donc, le programme complet est quand même à conseiller. Donc, je ne vous dis pas la date. Cherchez-la.
Bien joué. Tout ça, c'est l'émission du Fictionnaire Radio Campus Orléans. Je suis en compagnie de Jean-Baptiste Fressoz, merci beaucoup de me recevoir. Nous parlons de ton livre « Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie ». Et donc, le sous-titre de ton livre est important. Et puisque c'est une nouvelle histoire de l'énergie, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste l'ancienne histoire, ce que tu appelles l'histoire phasiste de l'énergie ?
Alors, si on considère les histoires qui ont déjà été publiées, ce sont souvent des histoires qui ont le même type de chapitrage. Les premiers chapitres vont parler de bois hydraulique à l'époque pré-industrielle. Au 19e siècle, on va parler du charbon et de la machine à vapeur. Au 20e siècle, on va parler du pétrole. Alors, ce type d'histoire, ça pose un certain nombre de problèmes parce que ça laisse un peu dans l'obscurité l'énorme croissance de l'ancien à chaque époque. C'est une histoire qui est focalisée sur le nouveau à chaque époque. Ça, c'est un biais qui est assez commun à l'histoire des techniques en général et qui se retrouve très bien dans l'histoire de l'énergie, qui avait été très bien analysée auparavant par un historien britannique qui s'appelle David Edgerton, qui a écrit un livre vraiment fondamental qui s'appelle The Shock of the Old, qui était vraiment une source d'inspiration importante pour ma relecture de l'histoire de l'énergie. Et donc, vous avez en fait... des choses qui passent un petit peu à travers les mailles du fil historique. Par exemple, l'explosion des renouvelables au 19e siècle. au moment où on s'industrialise, on va surtout parler du charbon et de la machine à vapeur. Mais en fait, la grande énergie qui croît également, c'est l'hydraulique. En France, c'est multiplié par 3 la puissance hydraulique au 19e siècle. Et ça, c'est avant l'hydroélectricité. Évidemment, l'hydraulique croît énormément au 20e siècle dans la plupart des pays. Donc ça, c'est le premier point. C'est une histoire qui se focalise sur le nouveau à chaque époque. Le deuxième problème de l'histoire de l'énergie telle qu'elle est racontée, c'est qu'ils considèrent les énergies en relatif. C'est-à-dire ils étudient la part du charbon dans le mix énergétique, la part du pétrole dans le mix énergétique. Et c'est vrai que quand on regarde les choses comme ça, on peut voir des formes de transition. Et cette manière de regarder les choses en relatif, j'en retrace l'histoire en fait, ça remonte aux années 70, j'explique d'où ça vient. Puis la troisième manière de raconter l'histoire de l'énergie, qui est la plus généralement répandue dans le monde académique, c'est non pas de faire des grandes fresques énergétiques, ce dont j'ai parlé, les livres de Vaclav Smil par exemple et d'autres, c'est d'insister plutôt de prendre les énergies une par une. C'est-à-dire que vous avez des spécialistes du charbon qui vous font des livres sur l'histoire du charbon, des spécialistes du bois, des spécialistes du pétrole qui vous font la grande histoire du pétrole, etc. Et moi, ce que j'ai fait dans ce livre, c'est j'ai considéré au contraire les énergies dans leurs relations. Donc ce qui m'a intéressé, c'est plutôt ce qui se passe à l'interaction du bois et du charbon et du pétrole et du bois. Donc c'est pour ça que c'est une histoire nouvelle. C'est-à-dire que je m'intéresse non pas à la manière dont les énergies sont en concurrence, et donc c'est pour ça qu'on a aussi ce biais transitionniste, c'est qu'on s'intéresse comment le charbon remplace le bois dans tel ou tel secteur, comment le pétrole remplace le charbon, on passe des machines à vapeur aux moteurs à explosion. C'est ça en fait, le cœur de l'histoire de l'énergie, ça racontait ce genre de choses en fait. Mais ça, c'est juste une partie de l'histoire de l'énergie. Il y a plein d'autres phénomènes en histoire de l'énergie qui se racontent très mal si on part de ce prisme darwinien où les choses sont en compétition les unes avec les autres, et on regarde plutôt les relations de symbiose, en quoi les énergies s'entraident, en quoi elles sont mutuellement dépendantes. Donc, par exemple, j'écris une histoire des étais des mines de charbon. Et en fait, c'est très important, parce que sans étais, il n'y a pas de charbon. Et au 19e siècle, on consomme de plus en plus de bois, en partie pour étayer les mines de charbon. On arrive au résultat qu'en 1900, l'Angleterre consomme plus de bois sous forme d'étais pour extraire du charbon qu'elle n'en brûlait au XVIIIe siècle. Donc c'est là où je dis que l'histoire elle est aussi nouvelle, parce que quand vous prenez l'historiographie de la révolution industrielle, l'historiographie, les livres de référence, hein, ceux de Anthony Wrigley, de Paul Ward, etc., il y a ce récit en fait, non, la révolution industrielle c'est une transition du bois vers le charbon. Bah non, ça dépend ce qu'on considère en fait comme bois. Le bois, alors c'est sûr que les étais, ce n'est pas considéré comme du bois énergie. C'est rangé dans la catégorie bois d'œuvre, mais c'est quand même du bois qui sert à faire de l'énergie. Et en fait, quand on voit que l'Angleterre, ce n'est pas seulement qu'elle consomme plus de bois pour étayer que ses mines de charbon en 1900 qu'elle n'en brûle au XVIIIe siècle, c'est qu'en plus, comme c'est du bois d'œuvre, il faut des surfaces forestières beaucoup plus importantes, genre 6-7 fois plus de surface forestière pour étayer les galeries des mines qu'elles n'en brûlaient au XVIIIe siècle. Donc ça veut dire que l'Angleterre industrielle dépend ou consomme 6 ou 7 fois plus d'espace forestier que l'Angleterre du XVIIIe siècle. Donc quand on raconte l'histoire de l'énergie ou l'histoire de l'économie en disant c'est, voilà, on est sorti de l'économie organique, on dit des choses très 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 bizarres. Voilà. Donc vraiment, j'insiste sur les relations symbiotiques et les intrications entre les énergies. J'ai donné l'exemple du bois et du charbon, mais ça vaut pour toutes les autres sources d'énergie.
Et donc cette nouvelle histoire que tu fais, c'est utilise ce concept de symbiose, donc de prendre les relations de dépendance. Et pour continuer pour donner un chiffre, tu écris qu'en 1930, voilà, 96% du bois d'œuvre utilisé en Grande-Bretagne était importé. Donc ça veut dire tisser des relations commerciales exprès pour cela. Donc ce que tu mets à jour, c'est en gros que si on prend ce qui était considéré avant par l'histoire et par les historiens qu'il y avait une transition du bois vers le charbon, ça empêche de voir l'utilisation du bois et de montrer qu'il y a une modernité encore dans le bois, dans l'usage du bois. Tu as par exemple cet exemple du palais de cristal lors de l'exposition universelle de Londres en 1851. Sa modernité, écris-tu, n'est pas celle qu'on lui prête ordinairement. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on prend ce cas-là, en 1936, pour ce bâtiment ?
Alors, le palais de cristal, c'est un exemple intéressant qui montre bien l'écart énorme qu'il y a entre la compréhension culturelle de la modernité et puis la réalité matérielle. Le palais de cristal se retrouve dans tous les manuels d'histoire, dès le niveau lycée ou collège même, pour dire voilà, la révolution industrielle, c'est le fer, c'est l'acier, c'est la fonte et le verre. Donc c'est vraiment un monument emblématique de la modernisation industrielle. Peter Sloterdijk, dans son livre Le palais de cristal, en fait aussi l'emblème de la modernité industrielle, du capitalisme, etc. Alors c'est vrai que dans le palais de cristal, il y avait plein de machines qui dépendaient du charbon. Il y avait même un gros bloc de charbon dans le palais de cristal, pour être tout à fait honnête. Mais la chose intéressante, il me semble, c'est que quand on regarde les documents de l'entrepreneur qui a fabriqué le palais de cristal, on se rend compte que dans le palais de cristal, en masse, il y a trois fois plus de bois que de fonte et de verre. Et effectivement, en 1936, tu mentionnais la date de 1936, c'est l'année où brûle le palais de cristal. Et le palais de cristal s'est enflammé et a brûlé en quelques minutes. Les pompiers ont rien pu faire. C'est justement parce qu'il y avait tout plein de bois. Et ce bois avait été soumis à un fort effet de serre pendant 80 ans, parce qu'évidemment, il y avait un toit en verre. Et donc, je finis ce chapitre sur le palais de cristal en disant finalement, le palais de cristal, c'est une très bonne métaphore du capitalisme contemporain, mais pas du tout pour les raisons auxquelles on pense habituellement. Donc, le palais de cristal, en fait, quand on regarde ça comme objet historique, on voit que c'est un monument agricole. C'est une grande serre, en fait, agricole. Il a été conçu par un architecte qui s'appelle John Paxton, qui travaillait pour un noble anglais qui avait un domaine de 80 000 hectares. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est que les gens les plus riches, en fait, en Angleterre, à ce moment-là, au milieu du 19e siècle, ce ne sont pas les industriels du Nord. Ce ne sont pas ceux qui possèdent les machines à vapeur et les mines et les chemins de fer. Ce sont, en fait, d'abord, les propriétaires fonciers. Donc c'est une société qui est encore profondément aristocratique et agraire. Et puis les marchands aussi de la City, on hérite.
Tu vas mettre aussi à jour une symbiose très importante entre le charbon et le pétrole, puisque dans l'historiographie telle qu'elle était rapportée, le pétrole allait remplacer le charbon. Et tu nous apprends que extraire et transporter le pétrole, ça requiert de plus en plus d'acier, et que pour fabriquer de l'acier, il y a donc besoin de plus en plus de charbon. On retrouve cette histoire entre le charbon qui, pour l'usage de ces mines, a besoin de bois pour les étais.
Alors tout à fait, quand on lit les histoires sur l'énergie au XXe siècle, on a ce genre de phrases, y compris par des historiens de l'environnement tout à fait réputés. Le charbon régnait jusqu'en 1965 et le pétrole ensuite a pris sa place. C'est une histoire, une fois encore, ça trahit cette vision très phasiste en fait, des énergies. Effectivement, le pétrole sans acier, c'est impossible parce que toute l'infrastructure pétrolière, depuis son extraction jusqu'à sa combustion, dépend de l'acier. Le pétrole est pompé avec des machines en acier, il circule dans des tubes en acier, il est transporté dans des bateaux en acier, il est brûlé dans des moteurs en acier qui font avancer des machines en acier. Et tout cet acier est produit avec du charbon. Donc c'est sûr qu'il y a une symbiose très forte, assez évidente. Quand je dis que c'est évident pour tous les ingénieurs de l'entre-deux-guerres, qui disent bien, tous les philosophes ou les gens qui s'inquiètent du fait que le pétrole pourrait remplacer le charbon se trompent largement, tout simplement parce que pour faire des voitures, il faut énormément de charbon. Pour faire une voiture dans les années 30, il faut 7 tonnes de charbon. Ça va autant en masse que le pétrole qu'elle va brûler dans sa durée d'existence. En Angleterre, dans les années 30, il y a des calculs qui sont faits. Pour chaque tonne de pétrole qui a été consommée, il avait fallu consommer 2,5 tonnes de charbon en consommation induite. Donc vraiment, pétrole et charbon sont complètement liés. Et autant pour la symbiose bois-charbon, ça s'est séparé puisqu'on extrait le charbon essentiellement maintenant par des mines à ciel ouvert ou avec des systèmes de soutènement marchand, autant pétrole et charbon sont encore complètement liés. C'est-à-dire que ces deux fossiles-là sont indissociables. Alors, sur le cas de pétrole-charbon, ça n'empêche qu'on a des historiens qui construisent tout un récit du XXe siècle sur cette idée de transition. Un livre qui a fait grand bruit et qui a été reçu avec beaucoup d'éloges dans le monde académique, qui est le livre de Timothy Mitchell, Carbon Democracy, est basé sur cette idée d'une transition du charbon au pétrole, avec cette idée que le charbon était souterrain, solide, pesant et donc qui donnait un grand pouvoir aux syndicats et aux mineurs, et à l'inverse du pétrole qui aurait été plus capitaliste parce qu'il aurait permis de contourner les syndicats de mineurs. Et ce récit-là, il a été reçu comme très intéressant, très important, ce qui montre bien à la fois, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre à la fois une envie de matérialisme, de récit matérialisé du XXe siècle. On se dit que c'est important de mettre ça au cœur de nos récits et d'en faire un facteur causal. Et en même temps, une forme de désintérêt face à ce que c'est que produire du pétrole ou brûler du charbon. Parce qu'en fait, quand on s'intéresse un peu plus sérieusement à ça, on voit, bah, par exemple, le charbon est brûlé massivement sous forme de poudre dans l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire, on broie le charbon, le transforme en une poudre très très fine, ça lui permet de circuler dans des tuyaux, un peu comme du pétrole. Les centrales thermiques à charbon, dès les années 30, elles utilisent ce genre de choses. Les cimenteries aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement mécanisé. D'une certaine manière, le charbon a produit l'énergie la plus fluide qui soit, parce que ça produit l'électricité. À l'inverse, quand on y réfléchit, le pétrole, pendant longtemps, sa fluidité a été un handicap, parce qu'il fallait le transporter. Et transporter du pétrole avant les années 30, c'était compliqué. On faisait ça dans des tonneaux en bois. Donc ça, voilà, ça a mis au travail des centaines de milliers de tonneliers, en fait, le pétrole. Donc vraiment, on a des clichés, en fait, sur les énergies qui seraient liquides ou solides. Et l'histoire est évidemment infiniment plus compliquée, plus intéressante. Un point aussi qui est frappant, c'est le charbon. Au moment où le pétrole commence vraiment à empiéter sur le marché du charbon, en fait, c'est seulement la fin des années 50 du XXe siècle. À ce moment-là, le charbon est déjà très intensif en capital. Ce ne sont pas des humains qui tapent sur des veines de charbon qui extraient le minerai. Ce sont des machines, des haveuses électriques qui scient le front de taille et tout ça est envoyé par bandes roulantes. On commence déjà à installer du soutènement marchand. Etc. Donc voilà, le charbon est extrêmement intense en capital. Et si le charbon a diminué, pas forcément qu'on consomme moins. D'ailleurs, aux États-Unis, on en consomme de plus en plus au cours du XXe siècle du charbon. Le pic du charbon aux États-Unis, c'est en 2008. C'est tout simplement parce qu'il y a eu de tels gains de productivité dans les mines qu'on n'a plus les mêmes masses, évidemment, de prolétaires qui extraient du charbon.
Pour redonner les chiffres que tu cites dans ton livre, la plus forte croissance de son histoire concernant le charbon a eu lieu entre 1980 et 2010. Plus 300%, et tu continues, c'est aussi dans les années 2010 que le nombre de mineurs atteint son pic. J'aimerais t'interroger sur cette phrase afin que tu nous l'expliques. Aussi vert que soit ou que devienne leur système énergétique, les pays riches, pour la simple raison qu'ils sont riches, se placent donc résolument du côté des grands consommateurs de charbon.
Alors ça, c'est un point important parce qu'il y a un discours en ce moment très optimiste et très gratifiant sur nous-mêmes, sur les pays d'Europe occidentale en particulier, qui, c'est vrai, ont vu leurs émissions de CO2 beaucoup baisser et en particulier leur consommation de charbon se réduire quasiment à zéro. Donc on trouve ça dans des think tanks éco-modernistes en disant voilà, l'Angleterre consomme moins de charbon qu'en 1746. Alors c'est vrai que l'Angleterre a très peu de sidérurgie de nos jours, donc elle utilise très très peu de charbon. Mais c'est une vision vraiment trompeuse, parce que l'Angleterre importe énormément de biens manufacturés, c'est un pays riche, donc elle a un commerce varié, vaste, etc. Alors c'est compliqué d'avoir des chiffres sur le charbon qui est incorporé dans ces biens-là, hein. Donc c'est que des estimations. Dans le livre, je donne le chiffre de 90 millions de tonnes en partant d'un article de 2018, mais à vrai dire, j'ai eu des contradicteurs, et ils ont sans doute raison, le chiffre était trop important, mais c'est 50 millions de tonnes en gros. Donc c'est quand même énormément de charbon, et bien plus de charbon en tout cas que ce que l'Angleterre brûlait en 1746. Donc vraiment, les pays riches consomment énormément de charbon par leurs importations. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est le cas de la Suisse. La Suisse, pays qui très tôt arrête le charbon. Les dernières mines de charbon en Suisse ferment après la Seconde Guerre mondiale. C'est un pays extrêmement prospère. Donc on a l'impression que voilà, c'est une sorte de prouesse comme ça d'efficacité économique, hein, en tout cas de baisse de l'intensité carbone. Sauf que la Suisse, pour des raisons qu'on connaît trop bien, abrite en son sein Glencore, une multinationale minière, qui extrait, alors c'est des rapports d'ONG qui disent voilà, environ 500 millions de tonnes de charbon par an. Elle abrite aussi une entreprise qui s'appelle Trafigura, qui est le leader du négoce des matières premières, et en particulier du charbon. On estime que 40% du charbon mondial qui est échangé de manière internationale, et ce commerce-là est assuré par Trafigura. Et donc au total, c'est 1 milliard de tonnes de charbon, qui certes n'est pas brûlé au milieu des Alpes, heureusement, mais qui contribue tout de même directement à la prospérité de la Suisse. En fait, les pays riches sont riches parce qu'ils sont aussi bien intégrés dans un système international qui carbure encore pour, 25-30% au charbon. Donc évidemment, quand on dit oui, ça y est, la transition oui, dans les pays riches, c'est arrivé, etc. Non, faut être vraiment beaucoup plus prudent que cela, je pense.
Et à l'inverse, je pourrais donner ce chiffre que tu cites aussi concernant le bois et son usage. Le bois demeure une source de chaleur essentielle pour le tiers le plus pauvre de la population mondiale, 2,3 milliards de personnes.
Alors ça, c'est vraiment un point important. Je vous disais, le bois est essentiel pour extraire du charbon, mais en fait, même le bois de feu reste très important et ne fait que croître. Il a cru à la fois dans les pays pauvres, mais aussi dans les pays riches. Alors c'est dans les pays pauvres, évidemment, où c'est absolument vital, en fait, et très important, effectivement, parce que c'est ça qui permet de cuire ces aliments. Et donc, le bois énergie a cru beaucoup. C'est, alors sous des formes nouvelles, enfin nouvelles entre guillemets, il y a eu une explosion du charbon de bois en Afrique subsaharienne. Ça a été multiplié par 6 depuis les années 1960. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le charbon de bois est une énergie urbaine. Ça permet de transporter du bois de manière beaucoup plus facile que du bois vert. Quoi. Et donc le charbon de bois, ça se développe grâce au pétrole. Parce que les mégalopoles d'Afrique subsaharienne, qui font plus de 10 millions d'habitants, comme Kinshasa, Lagos, Dar es Salaam, consomment des quantités de charbon de bois qui, vu du 19e siècle, sont inouïes. Kinshasa, de nos jours, c'est 2,3 millions de tonnes de charbon de bois. Paris, en 1860, qui était probablement la ville qui consommait le plus de charbon de bois au 19e, c'est 100 000 tonnes de charbon de bois. Donc, il y a eu, voilà, rien que Kinshasa, c'est sans doute plus de bois que la France entière en 1860. Et donc, ce charbon de bois, il vient de loin, donc il est transporté par camion. Donc évidemment, là encore, il y a des symbioses fondamentales. Et ce qui est important, c'est que la modernisation de l'économie à Kinshasa, donc l'urbanisation, a encouragé finalement la consommation de bois. Ça ne l'a pas réduit. Ouais. Et ça, c'est important parce qu'il y avait un récit trop simple de l'échelle énergétique. En gros, au fur et à mesure que le pays se développerait, bah forcément, on passerait du bois au gaz, au butane, et puis après l'électricité. Et en fait, non, c'est un récit beaucoup plus complexe. On a de l'urbanisation, donc à la fois on a l'électrification, mais encore du charbon de bois pour la cuisson, et les deux croissent ensemble. Voilà, donc le bois énergie a beaucoup cru dans les pays pauvres, mais il a aussi beaucoup cru dans les pays riches. Alors ça m'a encore plus surpris, je dois dire. De nos jours, le bois énergie dans les pays riches reste de loin la première source d'énergie renouvelable. En énergie primaire, c'est deux fois plus que les autres énergies renouvelables, solaire, hydraulique, éolien. C'est des chiffres fin des années 2010, donc ça a pu changer un petit peu, mais globalement, ça reste de très loin la première source d'énergie primaire devant les énergies renouvelables modernes. Et ça, c'est encore lié à des effets de symbiose qui ne sont pas inintéressants. Vous avez une économie en croissance dopée par les fossiles. Donc vous avez de plus en plus de biens qui sont produits, et ces biens, il faut les emballer. Pour les emballer, il faut de plus en plus de carton. Et les cartons sont faits dans l'industrie papetière, qui est un énorme consommateur de bois énergie. L'industrie papetière, c'est le quatrième consommateur industriel d'énergie. Et dans les années, à partir des années 60-70, de plus en plus, ils utilisent la lignine, les liqueurs noires, en gros, un résidu de la production de papier, pour énergiser leur propre industrie. Rien que ça, ça fait exploser le bois énergie dans le mix énergétique des pays riches. Donc, vous voyez, il y a toutes ces symbioses, ces effets rebonds très éloignés, en fait, qu'il faut prendre en compte dans les récits sur l'énergie.
Donc maintenant, grâce à vous, on dispose d'une histoire correcte de l'énergie, cette nouvelle histoire de l'énergie. C'était le sous-titre de ton livre, Jean-Baptiste. Et maintenant, on arrive au fameux concept de transition, le titre majeur, sans transition. Et là, c'est toute ta réflexion sur, tout d'abord, d'où vient cette idée de transition. D'où vient le concept de transition? C'est une partie de ton livre où tu cherches à en faire l'histoire. Et tu mets à jour que c'est d'abord le fait des débats sur la crise énergétique, notamment dans les années 50, les années 70, où la transition a été conçue aux États-Unis par les Malthusiens atomistes.
Effectivement, une fois qu'on a raconté l'histoire de l'énergie comme ça, on se dit, mais pourquoi, diable, on parle autant de transition énergétique chez les historiens, etc. Alors, déjà, la première chose qu'il faut noter, c'est que c'est assez récent. Pendant longtemps, les experts de l'énergie ne parlent pas de transition. Ils n'ont pas besoin de ce mot-là. C'est pas du tout ça. Ils voient bien que les choses croissent ensemble. Et même, ils se moquent, à vrai dire, des fois, des discours des philosophes qui disent, par exemple, des gens comme Lewis Mumford, qui explique que grâce à l'hydroélectricité, il n'y aura plus de charbon. Bon, les spécialistes disent, vous êtes gentil, mais l'hydroélectricité, ça va permettre que de produire une certaine partie de notre électricité. Il y aura besoin d'énormément de charbon pour faire de l'électricité, ce genre de choses. Donc vraiment, on a à la fois un discours tonitruant, fin 19e, début 20e, sur l'idée d'un âge néotechnique qui était cher à Lewis Mumford, avec l'hydroélectricité qui finalement serait la rédemptrice d'une civilisation industrielle qui avait été fondée sur le charbon, que Lewis Mumford déteste. Et puis on a les experts qui voient bien que c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc pendant longtemps, personne ne parle de transition. Il y a un petit groupe de savants qui va se mettre en parler avant tout le monde, ce sont effectivement les Malthusiens, donc des gens qui se préoccupent de la croissance des ressources, mais des Malthusiens aussi qui sont des savants atomistes. Et c'est vraiment à l'intersection de ces deux imaginaires, l'imaginaire de l'âge atomique et l'imaginaire de l'épuisement des ressources, que naît l'idée de transition énergétique. Au départ, transition énergétique, c'est un terme qui vient de la physique atomique.
Long entretien d'1h30 avec Jean-Baptiste Pressoz. On parlait de Sans Transition, une nouvelle histoire de l'énergie qui est parue au Seuil en janvier de cette année. Karl, nous allons continuer à une belle promotion de ce grand festival qui est Grand Piano. Juste après le morceau que tu vas nous proposer, nous aurons l'interview avec Alexandra Arène pour Terraforma, manuel de cartographie potentielle. Et nous parlerons donc de la manière de pouvoir fabriquer de nouvelles cartes qui renouvellent la représentation de la Terre.
Eh bien, on va parler de Grand Brothers, le duo de Düsseldorf, je crois bien, qui sera à l'honneur au Campo Santo pour le 29 juin, le deuxième soir donc. Alors voilà, le premier soir, vous savez tous, il y a Zao de Sagazan, Flavien Berger.
Ouais.
C'est la folie. Et Shani Di Luca, qu'il ne faut pas oublier, qui risque d'ouvrir, je pense, en piano solo. Le deuxième soir, c'est comme l'année dernière, en fait. Un petit peu. Alors, il n'y a pas Sofiane Pamart, par contre, mais c'est une proposition de piano vers l'électronique. Il y aura Anna Rani, qu'on passera à la fin de l'émission en version remixée. Mais le Grand Brothers, c'est un peu le même esprit. On utilise les claviers pour faire de la musique répétitive, un peu parfois. Des choses un peu plus rythmées aussi, dansantes, qui sait. C'est plutôt pas expérimental, mais contemporain, quoi. Donc c'est vraiment cool. Donc la deuxième soirée, c'est Grand Brothers, Anna Rani et... J'ai oublié le troisième, tu ne l'as pas ? Il n'y a pas Zao de Sagazan.
Mais c'est ça, moi, c'est Zao, quoi.
Et ben là encore, je ne vais pas aller regarder le programme. Vous allez chercher, parce qu'il faut le prendre, le programme. Il y a tout en détail, tous les horaires.
Emparez-vous de cet événement.
Mais oui, il y a plein de trucs gratuits. Même quand vous le retournez, ça fait une affiche, quoi. Vous pouvez
le mettre ça, c'est beau. Moi, j'aime bien mettre... Non, moi, c'est dans la chambre, affiches nouvelles. Moi, je fais ça pour les CDNO et la scène nationale. Dès qu'on va voir un spectacle, pim, voilà, on met l'affiche. Ils font des très belles affiches.
Ça.
Mais oui, profitons de ces beaux graphistes qui nous embellissent la ville sur les murs.
Oui. Hein. Bon, allez, Grand Brothers sur Radio Campus.
Yeah, et l'émission des fictionnaires. Alexandra Arène, merci beaucoup de me recevoir dans votre bureau de l'IPGP. Nous parlons du livre Terraforma, manuel de cartographie potentielle, qui était paru en 2019 aux éditions B42. Ce livre, ce projet de carte, propose un voyage vers l'intérieur de la planète, de la Terre, et non vers les lointains, un voyage en épaisseur plutôt qu'en étendue. C'est donc une autre Terra Incognita qui nous attend. Nous ne sommes plus les explorateurs.
Excusez-moi, un petit problème, on va repartir au début de l'interview.
Je suis en compagnie d'Alexandra Arène. Merci beaucoup de me recevoir dans votre bureau de l'IPGP. Nous parlons du livre Terraforma, manuel de cartographie potentielle, qui était paru en 2019 aux éditions B42. Ce livre, ce projet de carte, propose un voyage vers l'intérieur de la planète, de la Terre, et non vers les lointains, un voyage en épaisseur plutôt qu'en étendue. C'est donc une autre Terra Incognita qui nous attend. Nous ne sommes plus les explorateurs au temps des grandes découvertes. La catastrophe bioclimatique, les questions écologiques sont passées par là.
Oui, bonjour. Je suis heureuse de pouvoir parler de Terraforma. Donc Terraforma, c'est un livre dans lequel on développe des potentiels cartographiques. Et dans lequel aussi on imagine qu'il y a un manuel de fabrication de façon à ce que chacun puisse se saisir des cartes, de ces modèles, pour dessiner des cartes de territoire. L'enjeu principal, c'est vraiment de rendre visible ce qui a été invisibilisé, en fait, tout simplement, par les cartes traditionnelles, on va dire, les cartes cartésiennes, qui ont été faites dans un certain but. Une carte, c'est fait pour quelque chose, toujours avec une focale particulière. Les cartes traditionnelles avec la longitude, la latitude, finalement, ça cartographie de la même façon tout lieu, tout territoire, donc avec cette grille, de façon homogène. Or, la Terre est hétérogène. Elle est multiple, il y a des entités qui l'habitent, il y a des phénomènes qui la traversent. Et donc, dans le livre, l'idée, c'était vraiment de pouvoir créer d'autres référentiels cartographiques qui nous permettraient de rendre visibles ces entités, ces phénomènes, tout ce dont, dans les cartes traditionnelles, finalement, sont un peu passées sous silence, puisque les cartes aussi ont été faites pour aller conquérir des territoires, comme vous l'avez très bien dit, pour explorer la Terra Incognita. Donc là, on joue un petit peu sur ça. Sur le fait aussi que Terraforma, donc la terraformation, ça vient d'abord d'un langage sur Mars. En fait, on va terraformer la planète pour la rendre habitable. Là, on part du principe qu'en fait, la Terre est déjà terraformée par ces êtres vivants, par ces entités, par la lente transformation des roches aussi. On pourra en parler après sur la zone critique. Mais voilà, en fait, la Terre est déjà terraformée. Donc, comment on peut en fait se développer des outils de visualisation qui permettent de comprendre cela.
Est-ce que vous écrivez dans le livre que les cartes telles que nous les connaissons disent un rapport à l'espace vidé de ces vivants, un espace disponible que l'on peut conquérir et coloniser. Il y a donc l'idée de repeupler les cartes.
Oui, tout à fait. On parle aussi de blanc des cartes, souvent, de ces espaces qu'on considère, par exemple, les friches. Je donne un exemple un peu plus concret. Les friches sont des espaces qu'on considère disponibles pour, par exemple, urbaniser, aménager. Or, elles ont des qualités intrinsèques. Elles sont peuplées déjà. Ensuite, il y a beaucoup d'autres territoires comme ça qu'on passe un peu sous silence avec les cartes, qu'on imagine qui n'ont pas de qualité finalement. Alors que si on va sur le terrain aussi, qu'on se reterrestrialise un petit peu, qu'on va enquêter en fait, finalement c'est aussi des outils, des méthodologies pour aller enquêter sur des territoires qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas tant que ça, en tout cas, que si on se focalise uniquement, si on prend en compte uniquement les cartes qu'on a, on va passer à côté de plusieurs choses.
Donc ce projet et ce livre, Terraforma, c'est une expérience collaborative entre deux architectes dédiés au paysage et à la stratégie territoriale, donc vous et aussi Axel Grégoire, et une historienne des sciences et metteuse en scène de théâtre, Frédéric Aitouati. Et mon étonnement, c'est qu'il n'y a pas de cartographe dans cette aventure. Vous vous êtes donc fait cartographe?
Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que... en étant architecte, on manipule beaucoup d'outils visuels pour rendre compte des projets. Et notamment sur des projets d'architecture des territoires, donc ce qu'on appelle aménagement, stratégie territoriale, urbanisme, on utilise beaucoup les cartes, en fait on utilise quasiment que ça. Donc voilà, il y avait une espèce d'héritage comme ça et de questionnement aussi par rapport à cet outil qu'on utilise tout le temps, donc les cartes IGN, les cartes satellites Google. Ce questionnement, en fait, on l'avait avec Axel quand on travaillait ensemble dans une agence de paysage et d'urbanisme, et on a rencontré Frédéric. Et c'est cette rencontre, finalement, qui a posé un petit peu les bases de ce livre, enfin, cette espèce d'interdisciplinarité où on se passait les questions un petit peu. Qui a fabriqué le livre. Alors au début, c'était pas du tout un livre, c'était plus une conversation entre nous trois, essayer de décortiquer les sujets. Qu'est-ce que c'est qu'un sol? Qu'est-ce que c'est que des ressources? Qu'est-ce que c'est que des frontières? Donc on partait de questions comme ça, et puis on essayait de déployer à la fois les récits, enfin les textes, les concepts, et puis les outils visuels, donc vraiment ensemble.
Alors un des premiers points que vous avez abordé, qui est un retournement. Terraforma propose une exploration du territoire par des cartes alternatives fabriquées à partir d'un point GPS redéfini. Ce point GPS est en fait un point... Enfin non, justement, le point GPS redéfini, c'est ce que vous le faites, est en fait un point mouvant, vivant, générant en partie l'espace autour de lui. Il y a donc un retournement, ce n'est plus le point GPS qui nous localise, nous, humain, mais c'est un point GPS redéfini.
Oui, alors, il y a plusieurs retournements dans le livre, on va dire. C'est un peu la figure, enfin le geste un peu qui motive la construction des cartes alternatives. Le point dont vous parlez, le point GPS, en fait, on voulait aussi partir du point de vue pour aller au point de vie. C'est-à-dire considérer qu'on ne regarde plus la Terre du dessus, et du coup qu'on définit un territoire par rapport à ses limites administratives ou par le déplacement d'un point GPS, mais qu'un territoire s'est constitué par plusieurs enveloppes qui sont inhérentes à chaque être vivant, qu'il soit humain ou non humain d'ailleurs. Donc on passe effectivement du point de vue au point de vie. Donc on a repris la belle formule d'Emmanuel Ecoccia dans La vie des plantes, il parle de point de vie. Comme ça. Et donc, on a développé ce modèle qui est dans le chapitre 2 du livre, où on va essayer de cartographier le point de vie d'un être. Alors, dans le livre, c'est le point de vie d'un être humain. Mais on a ensuite expérimenté sur d'autres projets le point de vue d'un arbre ou le point de vue d'un sédiment aussi. On aimerait aussi faire des points de vie d'autres êtres plutôt mouvants, comme des oiseaux, enfin, on verra ensuite. Et puis, il y a le chapitre aussi 3, paysage vivant, où là, on suit chaque déplacement, chaque mouvement, chaque façon d'habiter de chaque être. Donc là, le point devient ligne et se transforme et se mélange aussi à d'autres tracés que peuvent avoir d'autres êtres. Et donc, il y a aussi un autre retournement, qui est le retournement du globe vers la zone critique.
Oui, il me semblait que cette distinction entre le point de vue et le passage au point de vie était un des premiers moments, peut-être, celui que vous vouliez qui vous avez peut-être fait débuter. Effectivement, on en est au chapitre 2 du livre, mais il y a le premier retournement sur le sol. Et ça, c'est ce retournement-là qui peut-être est venu après, j'imagine, c'est-à-dire soudain de se dire on ne part pas, on va partir du. Enfin, le centre de la Terre va être l'extérieur, et ce qu'on appelle l'espace va être l'intérieur. Et ça, c'est un grand retournement, mais j'imaginais que vous avez pu le faire que en passant du point de vue au point de vie.
Oui, alors c'est intéressant comme lecture. Alors c'est vrai qu'il faudrait que je reprenne un peu dans l'ordre comment sont été conçus ces modèles. En fait, c'est vrai que paysage vivant, donc le 3, dont on suit, où on suit les tracés des animaux ou des êtres humains aussi, a été conçu en premier. En premier parce que il a été conçu en grande partie pendant le SPIP, le programme d'art et politique à Sciences Po, où j'ai rencontré Frédéric et Bruno Latour. Et où, avec Sonia Lévy, on faisait une enquête dans une forêt des Ardennes et où il était question de rendre compte de cette écologie particulière qui se tissait là-bas. Et donc, une des questions qu'avait Bruno, c'était Bruno Latour, c'était comment on visuel... Enfin, c'est une question qui s'élabore ensemble, mais comment on enlève le fond de carte, finalement, pour ne garder... ce qui fait la manière d'habiter de ce territoire. Et finalement, le fond de carte, donc le fond de carte, c'est quoi ? C'est, par exemple, vous avez les tracés des routes, les tracés des... les contours des forêts, les contours des bâtiments. Finalement, ça nous empêche d'aller voir au-delà, autre chose. Donc, c'est vrai que c'est un modèle qui s'est constitué là, à partir de 2016 à peu près. Et ensuite, donc il y a eu ce travail aussi qui a débuté avec Jérôme Gaillardet dans la zone critique. Et à partir de là, s'est constitué le premier modèle de Terraforma, qui est le modèle sol, où en effet, on retourne la terre, un petit peu comme un gant en fait. De façon à pouvoir représenter ce qui constitue les couches de la zone critique. Donc l'atmosphère, les sols, les roches altérées, et puis très loin, le noyau qui finalement est n'a pas vraiment d'incidence sur la façon dont on habite la Terre. Donc l'idée de ce retournement, c'est de placer l'atmosphère au centre de la carte, et plus on va vers la périphérie, donc il faut imaginer plusieurs cercles en fait, qui se déploient et qui grossissent. Donc plus on va vers la périphérie, plus on est entouré par les roches. Et donc pourquoi on avait ça en tête, pourquoi on a fait ça, c'est que finalement tout ce qui est rejeté dans l'atmosphère, tout ce qu'on rejette, la pollution, le CO2, le soufre, etc., ne s'évapore pas dans l'univers infini, dans l'espace. En fait, il est circonscrit, on est limite, enfin, il nous revient un petit peu sur la tête, ou en tout cas, il est connecté à d'autres territoires, il impacte d'autres territoires, il est mis d'un côté, mais il va de l'autre. Et là, les roches aussi sont notre limite, parce qu'il y a quand même une limite à ce qu'on peut aller creuser aussi dans la terre, et ce qu'on peut ramener comme matériaux. Donc c'est ces deux limites qui nous intéressaient, et puis de montrer aussi cette épaisseur de sol de la zone critique, donc pas uniquement les deux premiers mètres comme en pédologie, mais aussi plus profond. C'est-à-dire que les roches, par leur lente transformation, libèrent des nutriments et vont pouvoir contribuer à façonner le sol et puis à alimenter les végétaux. Donc on est quand même un peu plus loin que les deux mètres, on va peut-être à 50, 100 mètres. C'est ça ce qui fait la zone critique, cette... proche surface, ou voilà, ça c'est des choses que les scientifiques de la zone critique m'ont aussi permis de comprendre.
Est-ce que nous nous trouvons là actuellement dans votre bureau à l'IPGP, et on peut se demander ce que vous y faites alors que vous n'êtes pas une scientifique des sciences du système Terre?
Oui, alors ça serait une histoire parallèle à Terraforma, mais bon, on peut aussi en parler. En fait, j'ai fait suite à SPIP, j'ai rencontré Bruno, qui m'a fait rencontrer Jérôme Gaillardet de l'IPGP, et qui avait une question particulière, c'était qu'on ne voyait pas la zone critique à l'échelle de la Terre. Or, ils sont à l'Institut de physique du globe. Et le globe, effectivement, c'est le noyau, etc. Alors que la zone critique, c'est la fine pellicule à la surface de la Terre. Donc, à l'échelle, si vous voulez, on la voit quasiment pas. Elle n'apparaît pas. En tout cas, dans notre visualisation, elle n'apparaît pas. Donc, il y avait ce problème qui, qui nous était soumis, finalement, à Bruno Latour et moi. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer sur une visualisation de la zone critique. Donc, il y a... Dans laquelle on a ce retournement du globe dont je viens de parler, mais aussi une question de visualisation des cycles biogéochimiques. Donc ça fait l'objet d'un article qu'on a coécrit à trois, et en parallèle, donc il y a eu de Terraforma. Et suite à ça, donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'explorer cette zone critique et de comprendre qu'est-ce qui s'y jouait en fait dans ces observatoires, parce que les scientifiques instrumentent des observatoires du paysage pour comprendre les degrés de perturbation de ces sites et tenter de trouver des moyens d'y remédier. Et ils instrumentent avec des capteurs, bien sûr, qui nous donnent accès à d'autres phénomènes, à d'autres entités. Et donc, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui élargissait notre compréhension de la nature. Bon, j'emploie le mot nature, entre guillemets. Qui me paraissait tout à fait passionnante. Et donc, j'ai fait ma thèse sur ce sujet. Donc, c'est pour ça que je suis rentrée un peu dans les sciences de la zone critique par là, en essayant de comprendre comment ces sciences nous permettraient d'informer ensuite nos pratiques d'aménagement de territoire. Parce que c'était une thèse en architecture. Voilà. Et donc, suite à ça, eh bien, j'ai continué à travailler sur le sujet avec un nouveau projet qui s'appelle Terraforma, Terraforma Equipex cette fois-ci. Donc, c'est un gros projet de science pour instrumenter, pour créer de nouveaux capteurs plus frugaux ou plus low-tech et qui pourraient être distribués aussi à des non-experts, des non-scientifiques sur les territoires. Et donc, il y a trois observatoires qui sont en test. Mon travail consiste ici à essayer de comprendre comment cette façon d'instrumenter la Terre va permettre de prodiguer de nouveaux observatoires, une nouvelle compréhension de ces sciences aussi. Donc, je continue mon travail cartographique dans ce projet.
J'aimerais justement que vous parliez de ce projet. Terraforma, comment c'est mené, avec quels moyens et quel rôle précis vous y jouez ?
Alors, c'est un grand écosystème, comme vous pouvez le... donc, c'est à la base, donc c'est vraiment un projet d'instrumentation, de capteurs, de développement, finalement, d'instruments. Et puis, dans ce grand projet, il y a aussi un volet... des sciences dures vers la société. C'est-à-dire comment aussi on va permettre que ces capteurs puissent nous aider à comprendre, donc les acteurs du territoire puissent comprendre aussi là où ils vivent avec d'autres focales. Et c'est l'aspect aussi multifocal qui va être développé dans le projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans un environnement juste en posant un seul capteur, mais il en faut plusieurs en fait, parce qu'il y a différentes entités qu'il faut comprendre, différents phénomènes, comment l'eau circule en souterrain, comment le nitrate va être réabsorbé, remangé par des bactéries qui vivent dans les milieux souterrains et qu'on est très peu en fait. Donc il y a plusieurs grands sujets comme ça de découvertes, de choses qu'on connaît très mal. Mon rôle là-dedans, donc très concrètement, j'interviewe les scientifiques qui travaillent dans les observatoires pilotes et qui travaillent sur les capteurs également. Donc à partir de ces interviews, donc je vais sur le terrain aussi bien sûr, visiter les sites, comprendre comment les instruments sont utilisés. Et à partir de ces interviews, donc j'élabore des cartes avec le référentiel Terraforma modèle sol, donc l'idée de retournement. Donc on a toujours l'atmosphère au milieu et puis les roches en périphérie. Et donc il y a plusieurs cartes qui sont créées comme ça. Et surtout, ces cartes vont montrer les points de vue des capteurs. C'est-à-dire que les capteurs vont être dessinés ainsi que les phénomènes qui permettent de comprendre. Par exemple, à Plomeur, en Bretagne, le sujet, c'est vraiment de comprendre la trajectoire des eaux souterraines et leur capacité à pouvoir alimenter les nappes phréatiques, mais aussi à absorber effectivement le nitrate. Et puis il y a la question aussi d'infiltration des eaux salées, puisqu'on est en milieu côtier. Donc tout ce milieu souterrain qu'on connaît très mal, on va essayer de le cartographier, de le montrer. On est aussi sur des roches fracturées, donc l'eau s'infiltre non pas de façon linéaire, entre guillemets, mais va prendre des chemins particuliers dont les trajectoires sont difficilement compréhensibles. Il y a d'autres observatoires. À Oradé, on est plutôt sur un milieu milieu agricole. Et donc là, on va essayer de mettre en place une carte qui est basée sur les cycles des pratiques agricoles et qui va tenter de montrer comment, en fait, on a érodé les sols avec des types d'agriculture particulières, avec tous les sédiments qui vont se retrouver dans la rivière.
Nous avons un bel art de la coupure. Les interviews sont longues à l'émission du Fictionnaire, donc vous retrouvez ça sur le site de l'émission du Fictionnaire. C'était Alexandra Arène pour parler de Terraforma et de ce renouvellement des cartes terrestres. Karl, c'est toujours Grand Piano Festival en force!
Quelle énergie. On finit donc avec Ania Rani qui sera le deuxième soir au Campo Santo le 29 juin. Et là, on va écouter un morceau avec le Portico Quartet qu'on aime bien à Radio Campus, je crois, aussi. Et ça sera le titre Nest d'Ania Rani remixé par le Portico Quartet. Voilà. Et puis, on se dit à bientôt.
Et juste après, t'en veux, c'est de la bonne. Jean-Marc et son invité spécial, Mathieu Malone.
Malon.
Long. Radio Campus. 88.